Bienvenue, nous allons passer une heure sur un sujet très riche. Les machines, bien sûr, parce que c'est le thème des Utopiales, et l'évolution. L'évolution parce que l'humain est un animal, l'humain est un être vivant, et donc il évolue comme tous les êtres vivants. Et c'est un animal technique, donc il intervient, il crée des outils qui sont en mesure maintenant de le faire évoluer. Pour discuter de cette relation à la technique qui fait évoluer, nous avons six illustres auteurs de science-fiction. Je commence par la gauche. Nous avons Philippe Aubert-Côté, auteur canadien, qui a suivi des études en biologie, peut-être qu'il pourra nous éclairer, qui a fait un doctorat de bioéthique, et donc il est aussi en mesure de répondre à quelques questions d'éthique et de philosophique, disons, à l'Université de Montréal. Il est auteur de Pour l'honneur de Noam et du jeu du démiurge que vous avez à disposition à la librairie. À côté de lui, nous avons Jean-Laurent Del Socorro, ingénieur agricole de formation, mais surtout lecteur passionné de science-fiction et de fantasy, joueur de jeux aussi. Auteur d'une novella inspirée de Point chaud de Laurent Genefort, qui est aussi avec nous, qui s'appelle La mer des mondes. Et son premier roman s'appelle Royaume de vent et de colère, et c'est un récit de fantasy historique. À côté de lui, nous avons Sylvain Chambon, qui est également scientifique de formation, des études d'ingénieur à Nantes, et qui est actuellement consultant en base de données et qui s'intéresse à l'interface entre les sciences de l'information et les sciences du vivant. Il écrit aussi des nouvelles. À côté de lui, nous avons Alain Damasio. Alain Damasio, qui se présente comme un écrivain engagé, qui est l'auteur de plusieurs recueils de nouvelles, d'un roman d'anticipation politique des sociétés de contrôle à la Orwell qui s'appelle « La zone du dehors », d'un roman qui s'appelle « La horde du contrevent Grand Prix de l'imaginaire 2006 », qui Alain Damasio a aussi travaillé comme scénariste au cinéma, dans la création radiophonique et dans les jeux vidéo. Vous venez de sortir, Alain Damasio, « Le dehors de toute chose » qui décrypte l'hégémonie du contrôle dans nos vies. Et à côté de lui, nous avons Laurent Genefort, auteur de SF, de fantasy, de space opéra. J'aurais un peu de mal à citer tous les ouvrages de Laurent Genefort, mais citons quand même le cycle « Au mal » qui comporte 4 romans, « Point chaud » et « L'humaine ». Il a reçu de nombreux prix littéraires et aussi il est aussi titulaire d'une thèse de littérature sur les livres univers. Bien, alors, messieurs, l'humain est un homme technique et nous avons déjà à notre disposition des techniques qui sont en évolution, bien sûr, qui sont en mesure d'agir sur le patrimoine génétique, bien sûr, de plein d'espèces. On parle des OGM très couramment, mais qui pourraient aussi modifier le patrimoine génétique de l'homme lui-même. Alors, l'homme lui-même, on se pose toujours la question. Il y a 2 millions d'années, il n'y avait pas d'humains sur Terre. Avant le genre Homo, il y avait les Australopithèques. Puis, il y a eu des humains. Il y a même eu cohabitation de plusieurs espèces d'humains à la surface de la planète. Situation que nous ne connaissons plus, puisque nous n'avons plus qu'une espèce d'humain. Mais à l'avenir, avec les moyens d'évolution qui vont accélérer l'évolution naturelle, disons, est-ce que nous aurons plusieurs humains à la surface de la planète? Quels seront ces humains? Pourquoi est-ils créés éventuellement? Ou comment auront-ils apparu par hasard ou par accident? Comment allons-nous cohabiter? Toutes ces questions et d'autres, c'est ce que nous allons explorer maintenant. Alors, avant d'explorer les situations possibles dont s'empare la science-fiction, j'aimerais bien quand même qu'on fasse un survol de quelques machines à évoluer. Les machines qui font évoluer le patrimoine génétique existent déjà. Est-ce que, Monsieur Chambon, vous voulez bien intervenir là-dessus ?
Alors, si on doit parler de machines qui font évoluer le patrimoine génétique, déjà, une bonne chose serait de recadrer un peu ce que c'est que l'évolution. L'évolution, c'est le changement dans le temps d'une espèce et d'un organisme, d'une lignée au sens génétique, au sens patrimoine, simplement. Et là-dessus, cette évolution est guidée par un mécanisme de sélection. Il y a une sélection artificielle qui est typiquement quand vous élevez des vaches, vous allez plutôt sélectionner les vaches qui donnent plus de lait ou les vaches qui donnent plus de viande, selon ce que vous voulez faire. Et en dehors de ça, il y a la sélection naturelle. Pour la petite histoire, Darwin a vu la sélection artificielle et du coup a dit mais en fait c'est la même chose qui se passe dans un écosystème normal. Simplement c'est la nature, c'est l'environnement. L'écologie d'un organisme qui va sélectionner des traits et des critères qui sont plus ou moins favorables à la survie de l'organisme et à la propagation, au fait que cet organisme va se reproduire. Aujourd'hui, en fait, quand on regarde l'être humain, on peut se demander, de façon tout à fait légitime, mais en fait, cette sélection naturelle n'existe plus. Enfin, en tout cas, on peut se poser la question. Pourquoi ? Parce que des maladies, des traits qui sont normalement défavorables et qui auparavant étaient désélectionnés, hein, c'est-à-dire que les personnes qui avaient un certain nombre de maladies ne pouvaient pas grandir, ne pouvaient pas prospérer, ne pouvaient certainement pas avoir d'enfants, et du coup il y avait un petit peu une élimination de certains critères. Aujourd'hui, on se trouve qu'il y a quand même un certain nombre de maladies qu'on traite. Celui qui me vient à l'esprit, c'est typiquement les diabétiques. Aujourd'hui, auparavant, les diabétiques vivaient peu. Ils mouraient, ça se déclenchait aux alentours de, allez, entre 10 et 20 ans. Et l'espérance de vie, un diabète de type 1, je parle pas du diabète des obèses, l'espérance de vie après le diagnostic initial, c'était en gros 2 ans, quoi. Hein. Si on voulait se reproduire entre 15 et 22 ans, il fallait se dépêcher un petit peu. Aujourd'hui, on a découvert l'insuline, on a découvert comment la produire avec des bactéries artificielles, enfin avec des, je ne sais pas si c'est des bactéries ou si c'est des champignons, mais en tout cas avec des organismes qu'on a modifiés génétiquement pour pouvoir produire l'insuline, ce qui est déjà une assez belle réalisation techniquement. Aujourd'hui, les jeunes diabétiques qui sont diagnostiqués ont des pompes à insuline qui font que non seulement ils ont ce produit miracle qu'ils ne sont plus capables de sécréter eux-mêmes, mais en plus, ils ont une machine qu'ils portent continuellement sur eux qui va l'injecter en temps réel, enfin en continu tout le temps, ce qui fait qu'ils ont une vie à peu près normale. On est en train de construire, il y a des prototypes, il y a des gens qui vivent avec aujourd'hui, c'est malheureusement pas encore couvert par la sécurité sociale, mais ça va venir. Il y a des pancréas artificiels qui là font la boucle avec la rétroaction, c'est-à-dire qu'on mesure la machine mesure la quantité de sucre dans le sang et va automatiquement mettre le chose dedans. Et ça, du coup, c'est un trait qui auparavant était complètement éliminé et qui aujourd'hui ne l'est plus. Et donc, c'est un trait qui va survivre dans le patrimoine génétique humain. Donc, si on regarde la totalité de l'humanité, on a le génome humain au sens large qui se modifie profondément grâce au progrès de la médecine. Et c'est quelque chose qui est assez fabuleux.
Donc, le fait même de soigner modifie l'évolution naturelle dans le sens où on peut permettre à des gènes qui disparaîtraient de rester dans la population. Absolument. Alors, maintenant, on est capable d'aller beaucoup plus loin. On fait des organismes génétiquement modifiés. On peut aussi modifier la génétique de l'humain. Alors, il y aura des questions éthiques, évidemment, là-dessus, mais ce qu'on appelle le biohacking dans la vulgarisation, dans la littérature, ça existe déjà. Et on peut même faire du biohacking tout un chacun dans sa cuisine.
Absolument. Je parlais du pancréas artificiel. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, des pancréas artificiels produits par des entreprises, ça existe, c'est compliqué, il faut les homologations, etc. Allez chercher sur Internet open source artificial pancreas, vous trouverez plein de recettes pour fabriquer votre propre pancréas artificiel en hacking dans votre cuisine, au sens hacking informatique du terme. Et c'est quelque chose sociétalement, je ne sais pas ce que ça va donner, mais je suis content, on va dire, d'être dans cette époque pour vivre ça.
Alors, j'interviens juste pour une question technique. J'avais prévu des images qui tournaient et on reste coincé sur la même image qui montre en fait la dernière technique mise au point pour justement faire de l'editing de l'ADN et modifier la génétique. Est-ce qu'il est possible de faire tourner le... Voilà, parce qu'il y a d'autres images. Alors, par exemple, là, on a un organisme génétiquement modifié. Pour le rendre fluorescent, on a introduit dans son génome, le génome du lapin, un code ADN capable de reproduire quelque chose, un organisme luminescent qui est soit quelque chose des profondeurs, soit une luciole.
C'est une bactérie en l'occurrence.
Et là, on n'en est qu'au début, mais ça risque d'aller très vite. Est-ce que déjà, d'un point de vue éthique, Philippe Aubert-Côté, on se pose déjà la question d'autoriser ou pas les manipulations génétiques est-ce qu'au Canada, on se pose la question, par exemple? Et est-ce que la littérature, le fait d'être, vous, cultivé en littérature de science-fiction, ça peut apporter des éléments de réponse ou de réflexion?
Pour la situation au Canada, il faudrait que... je fasse une revue littérature pour apporter une réponse complète à la question, la génétique n'étant pas du tout mon domaine, ni sur le plan de l'éthique. Cependant, je peux vous dire que les travaux sur les embryons sont rigoureusement encadrés au Canada et on ne peut pas faire grand-chose, si ma mémoire est bonne. Il y a la loi sur la reproduction assistée, je me souviens plus du libellé exact, qui interdit beaucoup de manipulations sur l'embryon. Donc, faire des manipulations sur un embryon et le réimplanter et le laisser se développer jusqu'à la naissance, c'est interdit. On peut faire certaines manipulations, mais jusqu'à un certain délai. Il me semble que c'est dans les 14 jours, on doit le détruire. Il faudrait que je revérifie le texte de la loi, par exemple. Ce n'était pas mon domaine et je ne voudrais pas dire de sottises ici. Sauf que sur le plan éthique, évidemment, il y a des réflexions dans le milieu académique sur les manipulations génétiques appliquées à l'être humain ou même aux animaux. Pour l'être humain, c'est sûr qu'on peut se poser la question de quelle est la finalité de cette manipulation-là et de ses connaissances. Et on peut aussi se poser la question si on ne va pas altérer une quelconque essence propre à l'être humain. Là, évidemment, on met le pied dans... moi, j'ai l'expression anglaise en tête, là, dans, comme on dit, une boîte de conserve pleine de verre, là, à can of worms. J'aime bien l'image de mettre le pied dedans, ça grouille partout et tout. Parce que quand on pose la question de ce qu'est l'essence de l'être humain, on pose la question de c'est quoi un être humain, et là, on se retrouve dans un débat sans fin. Les définitions de l'être humain qui existent sont d'ordre philosophique. Il y a plusieurs philosophies qui s'affrontent. Vous avez des visions religieuses aussi, donc on n'en sort pas. Il y a eu des réflexions éthiques au Canada, on en parle dans le milieu académique, mais il ne se passe pas grand-chose côté de la recherche embryonnaire. Du moins, à l'époque où je faisais mes études, c'était assez tranquille.
Alors, une autre manière de faire évoluer l'homme assez rapidement, c'est de le mettre en contact avec des machines, et des machines intelligentes, de type ordinateur. Des réflexions de sociologues et d'anthropologues ont abouti à l'hypothèse que cette interaction avec la machine reformate la manière de penser de l'homme et du coup le fait évoluer vers la machine, lui fait faire un pas vers la machine, vers une simplification de sa manière de penser, par exemple. Donc ça, c'est encore un autre moteur d'évolution. Est-ce que vous voulez intervenir là-dessus?
Et même un moteur de régression.
Par exemple, oui.
Par exemple, sur une autre table ronde, j'évoquais le désir de Facebook de mettre au point des algorithmes de décision pour aider l'utilisateur à décider s'il doit publier ou non un statut. Donc, si vous voulez, l'exemple que je prenais en riant, c'était si vous voulez publier un statut contre votre belle-mère ou votre beau-père et que ce n'est pas très gentil, Bien, l'algorithme de Facebook va vous demander est-ce que vous voulez vraiment publier ce statut. Et sur le plan éthique, ça soulève des questions parce que l'essence de l'éthique, c'est que chaque être humain se questionne sur ce qu'il doit faire ou ne pas faire. Donc, c'est une réflexion qui est propre à chacun et on ne peut pas la faire reposer sur un autre. Donc, ce genre d'outil éthique, d'intelligence artificielle qui nous aidera à prendre des décisions éthiques est mal vu par certains penseurs parce qu'on se dit on se repose sur les machines, on se décharge de notre responsabilité éthique sur des machines et c'est épouvantable parce qu'une des choses qui caractérise, merci, je suis un ancien bègue, donc des fois ça m'arrive d'accrocher, l'être humain, c'est bien cette capacité éthique à s'interroger sur ses actes. Donc là, dans ce cas-là, on pourrait avoir une régression même.
Jean-Laurent Del Socorro, c'est un peu votre domaine aussi, l'interaction entre l'homme et la machine.
Alors, mon domaine, c'est peut-être un bien grand mot, mais disons, oui, j'ai écrit des nouvelles qui touchaient sur l'aspect transhumanisme de la chose, la réflexion notamment dans l'homme augmenté, de se dire, donc une nouvelle qui est parue dans Géante Rouge, c'était de se dire, de la même manière que on peut modifier génétiquement des gens, par exemple, comme dans l'Une rêve, l'autre pas de Nancy Kress, on crée génétiquement deux races distinctes, une qui ne peut pas dormir et une qui dort, et socialement, ça crée des gaps, parce que du coup, on a des gens hyper performants qui ne peuvent pas dormir, qui ne dorment pas, donc qui peuvent avoir une activité et une capacité d'apprentissage plus longue. Mais dans l'homme augmenté, je m'interrogeais, oui, et si cette évolution-là, finalement, elle n'était pas produite par une modification génétique, mais parce qu'on voit petit à petit arriver, c'est-à-dire des modifications techniques dans le corps humain. Donc cet effet de transhumanisme, alors qui pour l'instant, j'ai l'impression, touche sur des peu d'aspects, mais on parle de micro-mémoires qui sont gravées sur du cristal, on parle, voilà, qui permettent de décharger une partie de la mémoire et des connaissances. Il y a plein de visuels aujourd'hui dans la science-fiction qui évoquent, oui, la capacité d'avoir des compétences ou des techniques qui, via un module électronique, on peut s'en accaparer pour avoir cette connaissance immédiatement. Donc, ce qui est intéressant, c'est autour de ça, c'est de se dire que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas autant sur la modification génétique. Il y a un aspect, c'est très encadré, c'est pas facile à réaliser chez soi. Autant sur la technologie, on voit des gens qui, comme le biohacking, le font chez eux. Il y a des gens qui se grèvent des bouts de... Ça existe, hein, des clés USB au bout de leurs doigts. Donc il y a un aspect, finalement, où ça vient d'en bas. C'est, on va dire, le hack au premier sens du terme, c'est de la bidouille. Pour s'augmenter. Et ça, c'est relativement intéressant parce que on sort du contrôle, du contrôle éthique qu'on peut avoir autour, par exemple, de la recherche génétique.
Alain Damasio, c'est aussi un thème que vous avez abordé, la dématérialisation de l'humain, sa réduction à la machine, même intelligente, et cette question aussi du transhumanisme, le téléchargement de la pensée, est-ce qu'on peut réduire la pensée à un fonctionnement de machine et pouvoir récupérer éventuellement cette pensée ou pas?
Bon, moi, je crois absolument pas à ces mythes-là. Honnêtement, je pense qu'il y a une erreur fondamentale qui est de croire que le silicium est un support matériel possible pour ce type d'interaction physico-chimique extraordinairement complexe et doublé d'une couche spirituelle qu'on n'a jamais réussi à toucher et à comprendre. On ne sait pas comment émerge la conscience, on ne sait pas comment même émerge le vivant. On n'a jamais réussi à créer du vivant à partir de la matière inerte. Quoi. On arrive, le vivant est un feu qu'on arrive à transmettre d'un être humain à un autre être humain, mais on n'arrive pas à le créer ex nihilo comme ça. Donc de croire que la pensée, qui est quelque chose d'absolument extraordinaire, puisse être transmise dans les machines, moi ça me fait doucement rigoler. Mais on a besoin de ces mythes, voilà, ces mythes sont précieux pour un certain nombre d'objectifs pas très avouables à mon avis, quoi. Et donc ça me fait sourire. Moi, je suis écrivain de science-fiction, donc je vis aussi de ces mythes-là. Je vis de la mise en récit de ces mythes-là. Mais à partir du moment où on revient et que je me rends compte que ces mythes-là servent, commercialement, médiatiquement, à certains types d'entreprises pour nous vendre des choses, pour générer et pour appeler des crédits de recherche colossaux, comme le fait Google sur, par exemple, la quête de l'immortalité ou des logiques de recherche transhumaniste qui financent avec des milliards prélevés, je vous le rappelle quand même, sur nos données personnelles et sur et sur le data mining de toutes les traces que vous laissez dans les moteurs de recherche Google et dans Gmail, etc. Ça, oui, c'est toujours un peu flippant, mais bon, on parlera du transhumanisme, ouais, pour moi, ça fait partie des grandes mythologies de notre temps et des mythologies que j'appelle para-religieuses, c'est-à-dire qui utilisent beaucoup de techniques et de supports mentaux liés à la manipulation religieuse, ouais, tout simplement.
Laurent ?
Moi, c'est beaucoup plus simple parce que, comme j'écris principalement du space opéra, dans mon lointain futur, les religions existent encore. Il y a les scopalismes, le panslam, etc., des sortes de versions futures des religions ce que j'appelle les religions du berceau, c'est-à-dire les religions issues de la Terre. Et un des premiers commandements, c'est « point ne manipulera le génome humain ». Donc, j'ai d'une certaine manière réglé la question. Mais en même temps, ça souffre de nombreuses exceptions parce que quand on peut le faire, on finit par le faire. Et c'est ce qui se passe pour coloniser les étoiles dans mon monde, dans mon univers futur. Donc il y a des post-humains adaptés à l'espace, etc., etc. Simplement pour accomplir le désir expansionniste de la colonisation des planètes. Donc ça sert, ça voilà. Donc ce qui me relie avec les problématiques actuelles, c'est que, j'allais dire, à partir du moment où l'homme est plongé dans une technosphère, c'est un, j'allais dire, tout homo faber, tout homme qui fabrique, est fabriqué lui-même. Parce que une partie de nous-mêmes considère notre corps comme de la matière, et notre corps est matière. Et par conséquent, s'il n'est pas encadré par une éthique justement, on peut le considérer comme de la matière que l'on peut, ou tout être vivant d'ailleurs, que l'on peut modifier et altérer à volonté. Après, c'est moins le comment qui compte que le pourquoi finalement. Mais dans ce que j'aime bien dans les thématiques des machines à évoluer et notamment que ce soit les nanotechnologies, l'électronique embarquée dans le corps, j'allais dire, c'est ce côté, j'allais dire, presque finalement animiste derrière ça. Et on en revient, disait Alain, aux mythes qui nous font vivre. C'est en fait, on essaye. Plus on essaye de s'écarter de cette matière, je suis tout à fait d'accord avec Alain sur le côté vraiment qui me paraît difficilement atteignable, en tout cas dans un futur même pas très proche de la digitalisation, enfin de la numérisation de la conscience. J'ai perdu mon fil. Ça me paraît difficile, mais ça nous raccorde finalement avec. C'est une manière de nous raccorder avec le monde extérieur quand même. Puisque quand on se truffe de machines, quand on se truffe de prothèses, c'est aussi une manière d'augmenter nos sens et donc de communiquer avec l'extérieur. Donc ça nous redéfinit en tant qu'être humain. Et on se définit en tant qu'être humain par la manière dont on interagit avec l'extérieur. On n'est jamais coupé de l'extérieur. Et un auteur comme Egan l'avait bien déterminé dans les années 90 que ce qu'on croit souvent des constantes sont en fait des variables. Et qu'on essayait de définir l'être humain à l'intérieur d'une éthique. C'est un puits sans fond. On peut toujours creuser. On pense avoir des constantes, mais voilà, on peut se redéfinir en permanence. Et finalement, l'outil nous redéfinit en permanence. Et que ce soit des nanomachines ou des ordinateurs ou n'importe quoi, on se redéfinit en permanence parce que le milieu nous redéfinit en permanence. Que ce soit la technosphère ou pas, voilà, ou la nature elle-même en fait.
Je crois que c'est super important ce que tu dis là, c'est-à-dire que il y a un caractère fantastique de l'être humain, c'est sa plasticité totale, à la fois matérielle et évidemment mentale et spirituelle. Et le fait qu'on soit une machine évolutive totale, permanente et récurrente, fait qu'on a la capacité à la fois à créer des artefacts qu'on peut s'auto-injecter, qui vont rétroagir sur nous, quoi. Et en même temps, nos corps évoluent également, quoi, à la fois génétiquement, de l'intérieur, etc., mais aussi mentalement, culturellement, etc. Donc l'évolution, elle est totale chez nous en permanence. Donc, Effectivement, quand on essaye, et c'est le problème de la religion, quand la religion essaye de s'opposer, par exemple, éthiquement aux manipulations du génome, c'est que, comme tu dis, il n'y a pas de constante, c'est que des variables, quoi. Donc, le critère à trouver est extrêmement difficile, parce que si tu n'as pas une vision philosophique très forte, tu ne vas pas pouvoir critériser le seuil, dire à partir de quel seuil ça devient insupportable d'arrêter telle ou telle manipulation, etc. Moi, par exemple, j'ai décidé dans ma petite tête et dans mon petit coin de tout simple d'auteur de science-fiction, c'est de dire le critère, c'est la vitalité, c'est l'intensité du vivant. Qu'est-ce qui nous permet d'être plus vivant? Qu'est-ce qui nous permet d'être en vie de façon plus forte, plus riche, plus féconde, plus ouverte? Et qu'est-ce qui, au contraire, referme nos capacités vitales, referme notre ouverture au monde? Voilà. Il y a des technologies qui, à mon sens, les referment. Pour moi, déléguer, par exemple, une partie de ma mémoire dans une machine, ça n'ouvre rien, quoi. Ça n'ouvre absolument rien. Et toutes les ventes quantitatives qu'on nous fait au niveau du transhumanisme en disant vous allez courir plus vite, vous allez pouvoir courir 100 km sans générer d'acide lactique, vous allez pouvoir déléguer une partie de votre mémoire, etc. Toutes les données quantitatives, même de me dire vous avez 850 ans au lieu de 80 ans, pour moi, c'est absolument pas pertinent parce que Arthur Rimbaud, il a vécu 37 ans, parce que Van Gogh, il a vécu 38 ans, et que ces gens-là ont réussi en 38 ans à produire une richesse de vie, une intensité de création mille fois plus intéressante que le retraité qui va s'étendre jusqu'à 150 ans. Donc c'est la qualité des vies qu'on mène qui compte et non pas la quantité de vies qu'on va nous permettre de... Et ça, je trouve qu'on est toujours dans la confusion par rapport à ça. Donc voilà, pour moi, le critère, par exemple, c'est la vitalité. Mais c'est juste mon critère, et il peut y avoir beaucoup d'autres critères. Donc on n'est pas prêt, en tout cas, de trouver l'espèce de graal du seuil limite de ce qui est possible ou pas possible dans l'évolution. Et encore une fois, on est un être évolutif fondamental, et c'est notre richesse, c'est notre force, et c'est notre grandeur d'humain, quoi.
Jean-Laurent Del Solcoro.
Oui, je réagis à ce que tu dis. Oui, après, ça reste, j'allais dire, du coup, faut, le critère de vitalité, il faut le redéfinir ensemble. C'est-à-dire, donc là, il y a aussi cette question-là. Quand on pose quelque chose, il faut qu'on soit d'accord sur le terme. Donc là, la question devient intéressante. Le autre point... quand tu dis oui, je suis d'accord avec toi, la qualité en fait et de pourquoi on le fait est importante, pas forcément la durée. Moi, je les oppose pas. Si on peut avoir 150 ans d'une grande qualité, où ça permet l'ouverture des gens, où ça permet aux gens d'avoir plus de temps pour se cultiver, je trouve ça génial personnellement. Donc moi, je les opposerai pas de façon aussi catégorique, d'une part, et d'autre part.
Je pense que c'est peut-être parce que le transhumanisme vend de la quantité, en fait.
Oui,
c'est
ouais,
simplement,
ouais,
je pense que la réaction, elle est plutôt par rapport à ça. Mais on peut effectivement imaginer ce qu'un Van Vogue aurait produit en 150 ans, pour le coup.
Alors, très bien, là, on est sur la nature humaine. Qu'est-ce que c'est que l'humain? Si l'humain dirigeait son évolution... il la dirigerait vers quoi, selon vous? Vers quoi a-t-elle été dirigée dans la littérature de science-fiction? Qu'est-ce qu'on ferait si on pouvait la faire évoluer dès maintenant, en quelques centaines d'années, par exemple? Des guerriers, bon. des esclaves sexuels, des travailleurs
Alors, à mon avis... on va faire des choses qui sont complètement futiles et complètement idiotes. En tout cas, c'est peut-être mon opinion. Je suis peut-être un petit peu naïf et un peu bisounours là-dedans. Quand on pense à modification de l'être humain, on va penser à se modifier pour pouvoir aller vivre dans l'espace, pour pouvoir aller coloniser Mars, etc. Je pense que le premier biohack véritablement qui aura du succès commercial, ce sera du Viagra amélioré. Hein. Donc voilà, je pense que ça va être complètement du futile, ça va être de l'ordre de la mode. Décider d'aller à la plage et du coup se dire ouais, mais là je vais taper un coup de soleil, paf, hop, je deviens noir, c'est vachement mieux. Je pense que ça va être un peu de cet ordre-là. Et après, derrière, il y a plein de conséquences qui sont un peu dans ce qu'on disait tout autour de la table, qui est que du coup, si je choisis un aspect et que finalement je le garde, mais là je l'ai choisi moi-même, hein, c'est pas celui dont j'ai hérité, ça veut dire que ça définit des choses sur mon identité, ça veut dire qu'au bout d'un moment, je vais me mettre avec les gens qui sont plutôt comme moi, parce que c'est moi qui ai défini à quoi je ressemble, avec qui je veux parler, et ainsi de suite. Et du coup, ça offre, en tout cas, à l'amateur de science-fiction, à l'écrivain de science-fiction, des perspectives qui sont particulièrement intéressantes, je pense, à ce niveau-là.
l'expression sur le corps plus, de manière plus approfondie que le simple vêtement ou le simple tatouage. Alors, Philippe Aubert-Côté, sur les humanités à venir.
Je trouve la question extrêmement intéressante parce que en éthique, ce qu'on constate, c'est que quand on pose la question « quelle sorte de post-humanité qu'on veut faire? », on voit que dans les faits, il y a une extrême pauvreté de l'imagination. Là, je ne parle pas de ce qui se fait en science-fiction, je parle de ce que les transhumanistes disent ou de ce qu'ils désirent, parce qu'on en revient toujours à des thèmes comme l'immortalité, une plus grande force, des capacités physiques accrues. Par là, je peux mettre la force physique, mais ça peut être la force cérébrale ou des choses comme ça. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il y a beaucoup d'articles qui montrent que ces thèmes, ces caractéristiques qu'on aimerait donner à l'être humain, en fait, ce sont des vieux fantasmes qui remontent jusqu'à l'Antiquité. Vous avez juste à regarder la mythologie grecque là, avec Hercule qui est plus fort que tout le monde, les dieux qui ont des pouvoirs surnaturels. Il y a un article que j'avais lu, je ne me souviens pas de la référence, c'était un article publié en 1995 d'une cinquantaine de pages qui faisait la recension de tous les fantasmes d'immortalité et de force surhumaine. Et on voyait que ce désir de changer l'être humain en un surhomme, on le retrouvait chez certains philosophes grecs matérialistes, on le retrouvait chez les gens de la Renaissance comme Francis Bacon, qui est un des pères de la science moderne, on le retrouvait même chez Benjamin Franklin, qui, étonnamment, dans certains de ses écrits, même parlait d'antigravité. Donc le bonhomme Franklin était quand même extrêmement intéressant. On en revient à la Deuxième Guerre mondiale aussi. Je veux dire, qu'est-ce que le bonhomme Hitler a voulu faire? Créer un surhomme. Et on voit que les transhumanistes reviennent un peu à la même chose. Donc, dans la réalité, c'est extrêmement pauvre, ce qu'on veut faire. Dans la science-fiction, c'est beaucoup plus imaginatif. Je sais que moi-même, dans mes récits, je m'enseigne des post-humains et j'avoue que j'ai fait des choses un peu exagérées, des post-humains mi-humains, mi-animal, juste pour le fun ou des trucs comme ça. Dans la vraie vie, je ne pense pas que des gens voudraient envisager cela comme post-humanité. Mais bon, en science-fiction, pourquoi se limiter à ce qu'on fait depuis 2000 ans aussi?
Laurent Genefort, tu voulais rajouter quelque chose?
En fait, c'est une question politique, finalement, ça. Et c'est quand on a la capacité de se modeler. Après, c'est la politique interne et la donc le rapport à l'autre qui va conditionner aussi ce qu'on veut devenir. Et le degré zéro de la modification, c'est la cosmétique et les implants. Et qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'en fait, 99% ou 99,5% des modifications corporelles qui sont faites sont faites simplement pour ressembler à une norme. C'est-à-dire que ça va effectivement dans la réalité. On s'appauvrit effectivement, puisqu'on va vers une norme, la norme de Ken et Barbie, grosso modo, l'éclaircissement des trucs. Et j'avais discuté avec un copain américain, et je lui avais demandé, mais si t'as la capacité de changer le génome de tes enfants, qu'est-ce que tu ferais? Et en fait, il m'avait fait la liste de ce qu'il ferait. S'il était capable de le faire. En fait, c'était une liste qui permettrait à ses enfants de s'inclure dans la société, en fait. C'est-à-dire d'éliminer tout élément. Donc, on n'était pas dans une parce que finalement, la capacité de diriger notre génome, ça pourrait aboutir à une explosion de variété de formes, en fait. Mais finalement, il n'y a que des artistes qu'on considère comme extrêmes qui le font. Et on va au contraire vers un appauvrissement. Mais ça, en même temps, j'allais dire que c'est de la politique au final. C'est-à-dire que la représentation de soi, la représentation qu'on a de soi-même par rapport aux autres, c'est ça qui définit l'état d'une société. Et voilà. Donc en fait, voilà, sous Hitler, si Hitler avait eu les capacités, avait découvert CRISPR et puis d'obliger les gens à rentrer dans des labos pour, tout le monde serait blond aux yeux bleus au final. Voilà, donc c'est l'état de société qui détermine au final.
La puissance de la norme.
Ouais. Après, on peut se poser la question.
On est intensément grégaire. Mais que le fait d'être intensément grégaire, peut-être que ça aussi, c'est une variable et pas une constante.
Ce que je veux dire, c'est qu'on peut se poser la question, si on a le choix tous de ressembler à la norme, la norme sur lesquelles reste, enfin, les critères de différenciation, de ségrégation passeraient sur autre chose. Forcément, parce que si on était tous grands blonds aux yeux bleus, on ne différencierait plus les gens sur leur aspect, on les différencierait sur autre chose.
Oui, c'est une fausse solution.
C'est une fausse solution, tout à fait.
Mais ce serait probablement mis en œuvre quand même.
Bien sûr. Après, et encore une fois, c'est parce que je suis un incorrigible optimiste, hein, j'imagine, j'espère, je tends à ce que si on choisit complètement notre aspect, l'aspect n'est plus la norme de ségrégation, enfin le critère de ségrégation, il y aura toujours des critères de ségrégation, et que du coup, l'aspect deviendrait inconséquent là-dessus, et au contraire, là, du coup, il y a une liberté qui foisonnerait à ce niveau-là.
Non, mais je crois que c'est un jeu permanent, c'est le cas pour la mode et l'esthétique, c'est-à-dire qu'il y a il y a une volonté mimétique, bien sûr, il y a une volonté de singularisation, de décalage par rapport à cette mimésis, et on n'arrête pas de se singulariser et puis de se renormaliser pour ressembler, effectivement. Mais moi, je suis complètement d'accord pour dire que c'est la chirurgie esthétique qui a été le premier vecteur et la première source, en tout cas, du biohacking. C'est le premier biohacking, c'est la chirurgie esthétique. Et quand vous la voyez, elle consiste à plaire, en fait. Ça consiste à plaire, ça consiste à être accepté par les autres et aimé par les autres à partir de son apparence physique. Donc, c'est une dimension psychologique et sociale extrêmement forte et qui est effectivement culturelle et qui peut changer en fonction des variations de la culture. Je pense simplement qu'on peut rajouter une autre variante qui va être aussi, et on le voit dans le transhumanisme, et elle est plutôt dominante peut-être dans le transhumanisme aujourd'hui, c'est qu'il y a une volonté de pouvoir aussi. C'est-à-dire qu'il y a une volonté d'avoir un avantage concurrentiel, surtout dans une optique très néolibérale qui est le propre du transhumanisme actuel, encore en tout cas d'une partie du transhumanisme, parce que le transhumanisme, par exemple, français est différent. Mais le transhumanisme américain, c'est quel est l'avantage concurrentiel que je peux acquérir en termes de capacité mémorielle, cognitive, etc., ou même physique, pour être plus compétitif sur le marché, pour être plus productif, pour être... voilà, donc il y a une volonté de pouvoir et de dépassement et de se situer, d'avoir un élément de supériorité. Et c'est pour ça que c'est très dangereux aussi ce transhumanisme, c'est qu'effectivement, comme ça va être articulé à des capacités financières, on va générer un gap encore plus important et des inégalités encore plus puissantes entre ceux qui auront accès à ces transformations puis ceux qui vont rester, comme nous, des êtres humains bio, standards. Ça, c'est un double effet, quoi, un double effet qui peut être tragique politiquement, quand même. Parce que l'immortalité, c'est pas pour nous, hein, si jamais elle existe, ou en tout cas de vivre 150 ans, c'est pas nous qui vivrons 150 ans. Ce sera les gens qui auront les moyens d'implanter ces types de choses, quand même. Donc, je sais pas si vous imaginez un François Hollande, un Nicolas Sarkozy pendant 150 ans, mais c'est un Vladimir Poutine, voilà, un dictateur coréen pendant 150 ans, c'est pas forcément génial. Ouais.
Je vais juste rebondir, parce que moi aussi je suis un incorrigible rêveur. Il y a quand même des choses, on pourrait dire, par exemple, au niveau de la médecine, il y a des évolutions qui ne touchent que ceux qui sont riches. On sait que grâce notamment au biohacking, on a vu des gens en Inde hacker des plans, les envoyer en Inde et grâce à une imprimante 3D, faire des interventions sur des enfants. Donc oui, effectivement, il y a plein de choses sur les mortalités, sur les technologies chères. Je suis d'accord avec toi, on n'y aura pas accès. Après, il y a des choses formidables. Grâce à la communauté, grâce au partage de la connaissance, moi je suis très attaché au Creative Commons, au partage de ces savoirs-là. Finalement, pareil, on est sur l'utilisation qu'on en fait. Et peut-être qu'aujourd'hui, moi je ne serais pas aussi... Je vois la bouteille à moitié pleine. Ok, il y a la vitesse, je suis d'accord sur l'aspect commercial, concurrentiel, s'améliorer. Et puis il y a autre chose, il y a cette communauté-là un peu sous-jacente où il n'y a pas de visage, mais finalement elle permet aux gens de partager des choses qui techniquement semblent inaccessibles, et en fait avec peu de moyens elle arrive à faire partager des connaissances médicales, des ressources techniques à travers le monde et n'importe où. Ça, je trouve ça formidable.
C'est vrai que sur les prothèses, il y a eu des très belles choses comme ça. Je me souviens d'un handicapé comme ça qui avait un bras artificiel, qui a réussi à créer une prothèse open source et qui effectivement la diffuse et pour des prix dérisoires. Et ça, c'est effectivement fabuleux.
Alors, il y aura une table ronde demain sur les prothèses. D'un point de vue littéraire, comment est-ce que la littérature de science-fiction a exploré ces questions par exemple, le meilleur des mondes, est-ce que du coup on aura des espèces spécialisées dans certaines tâches pour séparer les les espèces par classe sociale. Vous avez d'autres exemples ? Comment ça a été exploré, tout ça ?
Moi, j'avais créé des post-humains adaptés à l'espace, donc des travailleurs de l'espace, qui s'appellent les peaux épaisses, parce qu'elles ont une sorte de combinaison spatiale vivante qui n'est pas vraiment un symbiote, mais vraiment un organe, quoi, un véritable organe. Mais encore une fois, c'était dans un but utilitariste, et à partir du moment où on a un but utilitariste, ces personnes qui étaient devenues trop chères, ces ouvriers qui étaient devenus trop chers sont devenus obsolètes, des robots étaient beaucoup moins chers, et donc ils se sont retrouvés un peu dans la position d'Indiens vivant clochardisés au large des stations. Donc c'était un peu ma voilà, c'est à partir du moment, tout est dans le pourquoi toujours, à partir du moment où c'est fait dans un but où on transforme le corps en un simple outil, le retour de bâton peut être terrible, quoi.
Moi, dans mon cas, dans le jeu du Démiurge, j'ai imaginé une race de post-humains, les Eridani, qui sont très modifiés, très cyborgisés pour la conquête spatiale. Et la particularité de leur système social, c'est que, quand ils naissent, ce sont tous des êtres juvéniles qui ont un exosquelette blanc. Et rendus à l'âge adulte, ils doivent, sur la base de différents tests psychométriques, d'aptitude, tout ça, intégrer l'une des 6 castes qui composent la société Eridani. Il y en a une, les agris, eux s'occupent de tout ce qui est agriculture, nourriture, végétation et autres. Les technos, qui sont des scientifiques. Les ludis, qui sont plus des empathes. Les psychologues, ceux qui peuvent soigner les armes. Les gardiens, qui sont plus responsables de la sécurité. Les manus, qui sont plus les ouvriers ultra spécialisés. Et les admins, des êtres argentés, qui eux s'occupent de tout ce qui est gestion, administration, direction. Un peu. Et j'exploitais beaucoup dans le roman le fait que les juvéniles, une fois qu'ils étaient affectés à une caste, on ne leur demandait pas leur avis, c'était obligatoire, et comment que ça causait des drames, et que certains se suicidaient parce qu'ils n'étaient pas dans la caste qu'ils voulaient. Pourtant, ce sont des castes qui étaient quand même assez égalitaires, parce qu'ils étaient tous essentiels à la conquête spatiale, mais ça n'empêchait pas qu'il y avait certains rêves de rentrer dans un groupe plus que dans l'autre. Cependant, le choix que j'ai eu de faire ce système de caste-là, ce n'était pas pour montrer des inégalités sociales. J'ai été purement fantaisiste. J'ai consulté la grande encyclopédie sur l'être humain publiée aux éditions du Renouveau pédagogique, qui passait en revue tous les systèmes politiques qui existent dans l'humanité. Et quand j'ai lu la rubrique consacrée au système de caste, je me suis dit, « Ah tiens, pourquoi pas? » J'ai décidé de me lancer ce défi-là. Ça a donné ce résultat-là qui n'est pas inintéressant.
Alors, économiquement, on a intérêt à se spécialiser. C'est une théorie économique assez connue.
Mais l'ascenseur social n'y est.
L'ascenseur social n'y est. Si on veut aller dans l'optimum économique, effectivement, tout le monde est spécialisé. Tout le monde sait faire une chose et une seule. Là, culturellement, socialement, on est sur une pauvreté qui est assez phénoménale. Dans mes nouvelles, je me suis défaussé du problème. J'ai imaginé qu'un extraterrestre arrivait sur Terre et offrait la fontaine de jouvence, la paix, plus de faim dans le monde, etc. Et après, maintenant, faites ce que vous voulez avec. Ça se passe pas forcément toujours très bien. Parce que aussi, fondamentalement, je pense qu'on est à moyen terme sur la fin d'un système économique basé sur l'hyperspécialisation. Mais c'est un sujet pour une autre table ronde, je pense.
Moi, je voudrais citer un auteur japonais, malheureusement décédé, Project Ito. Et je le cite parce que son dernier roman, c'est Harmony. Il va y avoir, pour ceux que ça intéresse, la version animée qui a été tournée, qui est projetée demain soir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il utilise la technologie est utilisée après un événement où la race humaine a failli être détruite. Et ils disent le corps humain, enfin l'être humain, est la première ressource indispensable et inaltérable au monde. Et à partir de 17-18 ans, en fait, on a un implant qui nous interdit de pouvoir nuire à notre corps. C'est-à-dire, ça contrôle nos signes vitaux. Dès qu'on va mal, on est soigné. On ne peut plus se suicider. On ne peut plus, si une dépression arrive, on a des stats en permanence. Et ça va plus loin que ça, c'est qu'on est interconnecté, donc à travers les réseaux sociaux. On connaît à chaque instant l'humeur des gens qui sont autour de nous. Et si quelqu'un a une humeur qui est basse, on a un devoir social d'aller voir ce qui se passe, de lui parler. Et je trouve ça vachement intéressant, parce que hormis voilà, l'hyper-contrôle que ça fait sur la société, cette dimension-là sur on est tout le temps connecté sur nos émoticônes, sur savoir ce que pense l'autre, et que ça a une influence sur notre propre choix d'éthique, c'est-à-dire on a un devoir d'aller l'aider, je trouve ça vachement intéressant. Et dans une certaine mesure, je me demande si effectivement, c'est pas, alors pas sous cette forme-là aussi intégriste, mais ça ne va pas apparaître prochainement autour de nous.
Il y a un côté un peu un bonheur insoutenable de Ira Levin.
Complètement.
C'est-à-dire, il y a un côté, c'est une forme d'utopie finalement, d'avoir une sorte d'empathie obligatoire, enfin, d'empathie liée à une connectivité totale. Mais je vois, d'ailleurs, oui, on peut s'interroger sur. Sur la validité de cette obligation, en fait.
Dans ce que vous racontez, on a une évolution dirigée et évidemment contrôlée. Ça repose la question du contrôle de la machine sur l'homme, finalement.
Je ne sais plus, dans le film de Spielberg sur Jurassic Park, il y avait la vie trouve toujours son chemin. J'ai l'impression que le chaos trouve toujours son chemin. À partir d'un système, cette propension à aller vers les extrêmes, il y a une sorte de pente naturelle à tester les extrêmes et à aller vers les extrêmes, en fait. Et c'est-à-dire les limites du système. Finalement. Donc le chaos finit toujours par surgir là où on ne l'attend pas, dans tous ces systèmes homéostatiques. Voilà.
Oui, et en fait, je vais exactement dans ton sens, je vais abonder. Je suis extrêmement sceptique sur la capacité à contrôler l'évolution de l'être humain. Même les grandes multinationales, elles vont essayer de nous faire aller dans un sens qui fait qu'on va consommer plus d'une certaine chose. Même à court terme, ça va pas marcher. Ça va forcément diverger, ça va forcément aller vers d'autres choses. Et l'évolution biologique et culturelle, c'est un phénomène qui est éminemment chaotique, qui va aller dans tous les sens. Et en statistique, il y a un phénomène qu'on appelle la régression vers la norme, qui fait que, au final, on va tester les limites, on va aller très loin dans une direction, mais en fait, au final, c'est pas ça qui va être sélectionné, pour revenir sur des termes évolutionnaires. On va revenir sur quelque chose d'à peu près amorphe, voilà.
Bien, il est 5 minutes avant la fin. Est-ce que vous avez vous-même des questions sur ce sujet riche, infini de l'évolution, de son hasard, l'hasard de l'évolution? On pourrait durer 3 heures, oui, c'est sûr. Je ne sais pas s'il y a des micros qui circulent.
Oui, c'est bon.
C'est bon.
Alors, on m'entend?
Oui.
Alors, j'aimerais poser une question. Est-ce que, en soi, le transhumanisme, c'est vraiment aussi bien qu'on le pense? Parce que, certes, je ne renie pas les avantages, tels que la force accrue, etc. Mais, déjà, est-ce qu'on n'a pas de l'argent à mettre autre part? Je sais pas, la famine, ce genre de truc. Et aussi, par exemple, vu que les parties sont informatiques, vu que les parties qu'on transhumanisme sont en partie informatiques, il faut bien de la technologie pour que ça comprenne. On ne va pas faire des rouages et tout. On n'a pas que ça à faire. Et est-ce qu'on ne pourrait pas, à la fin, mettre des sortes de mini-virus pour ainsi, en partie, contrôler les membres? Je sais, c'est un peu théorie du complot, mais bon. Je pose cette question.
Je te laisse la parole tout de suite. Là, c'est l'auteur de SF qui parle. Le but, c'est pas de décréter si c'est bien ou mal. C'est l'évolution humaine via la technologie. C'est un champ d'hypothèses formidable. Donc, on crée des fictions qui ont pour but d'explorer ce nouveau champ d'application. Et de tester les limites. C'est ça, avant tout, enfin pour moi, hein, la SF, c'est ça. Après, j'allais dire, c'est ce qui n'empêche pas d'être engagé, Mais en tout cas, le processus de base pour nous, c'est d'établir les liens logiques déjà. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue d'auteur peut-être plus positiviste que qu'Alain.
Je pourrais répondre à la première question. Si ça ne dérange pas, je vais juste regarder la salle de ce côté-là parce que c'est plus commode. C'est que, est-ce qu'on devrait mettre de l'argent ailleurs? Ce qui est intéressant avec le transhumanisme, c'est que le transhumanisme, ce n'est pas comme un programme politique ou un projet de société dans lequel on met de l'argent dont le but consiste est de transformer l'être humain. Le transhumanisme, c'est à la base un discours ou une réflexion éthique qui dit que l'être humain pourrait être modifié par les avancées technoscientifiques et à tel point qu'il deviendrait autre chose qu'un être humain. Donc, la question devient alors de comment contrôler ce processus. Comment ça se fait concrètement, par exemple? Eh bien, pour obtenir un post-humain, je me souviens d'un ouvrage qui avait été écrit par Antoine Robitaille au Québec, où celui-ci s'amusait à identifier des technologies qui pourraient servir à créer éventuellement un post-humain. Et ce qui est intéressant, c'est que ces technologies-là, manipulation génétique, mise au point de nouvelles drogues, technologies cérébrales, sont toutes des technologies qui sont conçues pour d'autres fonctions. Donc, les drogues qui pourraient servir à optimiser les performances humaines, donc je pense à la Ritaline qui aide la concentration, sont conçues d'abord pour créer une maladie, mais c'est qu'après coup, on leur découvre une autre fonction. Pour stimuler les capacités cérébrales, on a fait beaucoup d'expériences avec les électrodes et les électrochocs. Pourquoi on a mis au point des électrodes et des électrochocs? C'était d'abord pour soigner des maladies ou soigner l'épilepsie ou des choses comme ça. Mon point, c'est que beaucoup de technologies qui pourraient servir à créer le post-humain sont en fait mises d'abord au point pour faire autre chose et des buts pour d'autres buts, donc, où c'est légitime d'investir de l'argent. Donc, l'idée de est-ce qu'on devrait investir l'argent ailleurs que dans le transhumanisme? Eh bien, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'argent à investir dans le transhumanisme parce qu'on investit déjà de l'argent dans des technologies qui sont acceptées, qui pourraient servir à faire du transhumain. Moi, je ne sais pas si tu vois la nuance, mais le transhumanisme, c'est plus un effet secondaire des technologies qu'on crée dans un autre but.
Et on parlait du rôle de la littérature et de sa manière d'aborder ces sujets-là. Alain Damasio, c'est aussi une manière d'interpeller le lecteur et de lui faire réfléchir, d'éventuellement le faire s'interroger sur les techniques qu'il utilise quotidiennement, qui peuvent l'absorber aussi.
C'est clairement, je pense que tout auteur d'SF a ça en lui de dire bon. Pourquoi on est sur les technologies? Pourquoi on est fasciné par ces technologies? Parce que ce qui nous intéresse, c'est de voir comment l'homme se réinvente à travers l'utilisation des technologies. Mais comment il se réinvente dans son rapport au monde? Comment il se réinvente dans son rapport à l'autre, socialement? Comment il se réinvente dans son rapport à lui-même? Comment il se réinvente dans sa construction en tant que sujet? Par l'utilisation de la technologie. Et c'est vrai que le transhumanisme, moi, m'intéresse beaucoup au sens où c'est une espèce de champ directionnel ou d'horizon enviable qu'on nous propose, et qui pose la question de qu'est-ce qu'est l'être humain aujourd'hui dans son entité normale, biologique, naturelle. Moi, ma conviction, c'est qu'on a absolument tout ce dont on a besoin pour être des êtres humains complets, riches, intenses, féconds, mais que c'est évidemment l'éducation, c'est évidemment le développement personnel, c'est évidemment le développement collectif qui permet d'aller au bout de ce qu'on peut, comme dit Nietzsche, c'est-à-dire d'être un être humain. Ce que Nietzsche appelle le surhumain, lui, c'est simplement l'homme qui va au bout de ce qu'il peut, qui va au bout de ses capacités propres. Or, le transhumain, pourquoi ça me choque, pourquoi ça me gêne, c'est pas toutes les bidouilles, le bio, etc. À la rigueur, c'est rigolo. Puis moi, je suis comme tout le monde, ça me fait marrer, c'est intéressant. Mais ce que je trouve grave, c'est que ça postule que l'être humain, finalement, serait normal, serait handicapé ou qu'il lui manquerait quelque chose. Et cette idée qu'il nous manque quelque chose, alors qu'on est plein et qu'on est fécond, je trouve ça extrêmement grave parce que c'est des machines, pour moi, à générer du manque, ça a généré du désir, à générer de la consommation, à générer. Donc politiquement, c'est très habile. Politiquement, ça, c'est un peu comme la religion, c'est pour ça que je dis que c'est très religieux. La religion, c'est dire, l'ici et maintenant n'est pas suffisant, c'est l'outre-monde, c'est l'au-delà, c'est l'ailleurs, c'est l'après la mort, c'est etc. qui sera beaucoup plus riche que ce que vous vivez aujourd'hui. Quoi. C'est toujours à l'extérieur de ce qu'on vit que ça sera mieux. Et le transhumain, c'est ça, c'est de dire, vos capacités actuelles, votre corps actuel, c'est pas suffisant, et on va vous proposer quelque chose de mieux. Il vous manque quelque chose. Il vous manque quelque chose. Je dis non, il ne manque rien. Il faut simplement aller au bout de ce qu'on peut. Voilà.
Et Laurent, tu avais quelque chose à rajouter?
C'est un peu je vois la chose un peu différemment. Moi, j'ai interprété le transhumanisme, enfin en tout cas les discours que j'ai entendus, spécialement des États-Unis, comme une forme moderne du scientisme. Et c'est pas tellement différent. C'est-à-dire utiliser une réponse technologique à des problèmes humains, des problèmes qui relèvent pas de la techno en fait, de la technologie. Et là où je suis peu convaincu par cette approche, c'est que moi ce que je vois surtout dans l'externalisation des capacités humaines et notamment cognitives, c'est un affaiblissement, parce qu'en fait un organisme vivant, c'est quelque chose de fondamentalement feignant, surtout moi. Mais et donc s'il a la possibilité d'externaliser, il le fait. Et au final, moi je sais que j'ai moins de mémoire depuis que j'ai la capacité de me brancher sur le net en permanence et de chercher des réponses en permanence. Ça m'augmente. J'ai pas l'impression d'être augmenté en fait, en réalité, bizarrement. J'ai la sensation d'avoir une réponse immédiate à une question immédiate, mais sur le long terme, j'ai pas du tout l'impression d'être enrichi en réalité. Donc je l'utilise mais sous un contrôle étroit, quoi, parce que c'est un danger, c'est le danger de la fainéantise à tous les niveaux, j'allais dire.
Alors on peut se faire l'avocat du diable, hein, et rappeler que les analphabètes ont une mémoire qui est bien meilleure que celles qui sont d'entre nous, parce que simplement dans leur vie quotidienne ils sont obligés de se souvenir de beaucoup plus de choses, donc il y a un espèce de curseur à poser au bon endroit, et où poser le bon endroit, c'est clairement pas à moi de le décider.
Bien, ben merci, on va s'arrêter là. Bonne soirée à vous, à bientôt.
Merci.